Ce matin, si vous avez vos Bibles ce matin, j'aimerais que vous tourniez dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 20. Actes, le chapitre 20. Et le titre du message que j'aimerais de vous partager ce matin, ça s'intitule... Trop vite. Ça s'intitule « Votre vie est précieuse ». Le savez-vous? Alléluia. On va prier. Seigneur, je prie ce matin que par ton esprit, tu parles à nos cœurs. Tu affermis, Seigneur, dans nos cœurs la vérité de ta parole, de qui tu es, Seigneur, et ce que nous sommes aussi pour toi, Seigneur. Je prie que mes frères et mes sœurs ici n'entendent pas seulement ma voix, mais surtout ta voix, Seigneur, la voix de ton esprit qui parle à leur cœur, Seigneur, et qui leur révèle la vérité, Seigneur, qui est dans ton cœur, qu'elle puisse être dans notre cœur et qu'elle puisse porter des fruits abondamment pour ta gloire, Seigneur, pour ton honneur, pour l'avancement de ton royaume, pour l'édification de ton Église, pour le salut du plus grand nombre. C'est ma prière et je prie que tu m'aides à partager ce message comme tu voudrais que je le partage, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Amen. Votre vie est précieuse, le savez-vous? Si je vous poserais la question, est-ce que votre vie, elle est précieuse à vos yeux? Est-ce qu'elle est précieuse pour vous? Hein? Vous savez, parfois nous pouvons recevoir un don ou un cadeau et on en découvre vraiment la vraie valeur. Des fois, seulement des années plus tard, lorsque nous découvrons, vous savez, par la suite, comment ce cadeau-là, ce que nous avons reçu, ça nous a bénis, ça nous a enrichis, comment ça nous a été utile et nécessaire dans la vie. Parfois, ça arrive, on découvre plus tard. Croyez-vous que le jour que nous allons rencontrer le Seigneur, que nous allons être éblouis par le don de la vie qu'il nous a donné et de sa grâce en Jésus-Christ? On va dire « wow », hein? Certainement, on va être ébloui. Mercredi soir, je partageais comment est-ce que l'apôtre Paul, il disait dans un passage de l'Écriture qu'il n'accordait pas beaucoup d'importance à sa vie et qu'il la considérait comme non précieuse. Et en fait, c'est le verset dans Actes 20, le verset 24, qui dit ceci, justement, vous pouvez le suivre avec vous, avec moi dans la Bible, mais il dit, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Paul dit que sa vie n'est pas précieuse pour lui, mais en fait, on pourrait dire, vous savez, que qu'est-ce qu'il révèle ici, c'est plutôt que la vie pour lui était extrêmement précieuse, extrêmement précieuse. Et c'est pourquoi sa plus grande priorité dans sa vie, c'était d'accomplir sa course et le ministère que Dieu lui avait confié. C'est ça qu'il dit. Et que lorsqu'on parle de sa course, c'est le plan que Dieu avait de préparer pour sa vie. Savez-vous, c'est lorsque nous réalisons la juste valeur de quelque chose, la grande valeur de quelque chose, c'est là que ça devient une priorité dans notre vie. N'est-ce pas? C'est là que ça devient... Et c'est pareil pour la vie aussi. Et votre vie est précieuse aux yeux de Dieu, est-ce que vous le savez? Et qu'est-ce que je veux communiquer ce matin? C'est ça, c'est très important de voir et de réaliser la valeur que Dieu accorde à notre vie, parce que c'est réellement seulement à ce moment-là que nous pouvons avoir pleinement la joie de vivre et aussi de profiter pleinement de notre vie et aussi de faire des bonnes décisions dans notre vie. Vous savez, la plupart des gens accordent une grande importance à la vie humaine. La plupart des gens, vous savez. Lorsque la vie d'une personne est en danger, qu'est-ce qui arrive? Hein? Toutes les autres choses deviennent secondaires. C'est souvent comme ça, vous savez. Lorsque une maison est en feu, qu'est-ce qu'on recherche à sauver? C'est les vies, avant les meubles, hein? Certainement. Lorsqu'il y a un bateau qui coule, on cherche à sauver les vies. Lorsqu'il y a un accident quelconque, on recherche vraiment à sauver les vies, premièrement. Lorsqu'une personne qui parle de s'enlever la vie, avant de sauver les meubles, on cherche à sauver la vie de cette personne-là. Et en fait, quelques semaines passées, il y a un homme qui m'a téléphoné, puis je trouvais qu'il ne sonnait pas bien, il avait l'air découragé. Et finalement, son épouse, elle a pris le téléphone et elle a parlé avec moi. Elle m'a dit, « Pasteur, elle dit, mon mari, là, il veut s'enlever la vie. » Ah, OK. C'est que... Et finalement, j'ai dit, « OK, je m'en viens. » Et on a eu un bon moment ensemble. On a partagé, on a prié ensemble. Puis merci, Seigneur, qu'il est encore ici aujourd'hui. Ça devient... une priorité. La vie, c'est important. Je me souviens, lorsque j'avais 9 ans, notre voisin au chalet, c'était dans le nord du Québec, c'est là où je demeurais, il s'appelait Monsieur Gendron. Et il était parti prendre une promenade en bateau avec 6 ou 8 enfants dans sa chaloupe. Et lorsqu'il est parti avec son bateau, aussitôt qu'il est parti, malheureusement, il y a un autre bateau qui est arrivé, puis qui a frappé. Puis le bateau a complètement chaviré. Et Mme Gendron, qui était notre voisine, elle s'est mise à crier, « Monsieur Poirier! Monsieur Poirier! » Puis là, finalement, mon père, il a parti à la course pour essayer d'aller sauver les gens qui étaient en train de se noyer. Heureusement, parce que l'eau était très profonde, heureusement qu'il y a quelqu'un qui a été chercher mon père, parce que mon père, il serait noyé lui aussi. Mais... tous les jeux, tous les travaux, les repas, il y avait une fête, ça a tout arrêté complètement. Vous savez, tout est devenu secondaire pour sauver les enfants, puis M. Gendron. Malheureusement, M. Gendron, il s'est noyé cette journée-là. Puis savez-vous, il y avait une seule personne qui n'avait pas un gilet de sauvetage dans la chaloupe. Savez-vous c'était qui? C'était M. Gendron. Mais je me souviens, vous savez. Et la vie d'une personne devrait toujours être considérée comme extrêmement précieuse. Quelle que soit la personne, quel que soit son âge, sa condition, sa situation, sa nationalité, vous savez. C'est la volonté et le désir de Dieu que nous respections la valeur et la sainteté de la vie humaine. Parce qu'elle est un don unique que nous recevons de Dieu. Notre vie appartient à Dieu. Dieu nous l'a donné, oui, pour qu'on puisse en profiter, et aussi pour lui, pour sa gloire. Et nous devrions vraiment la considérer. Et c'est une des raisons, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a le système de santé, santé physique ou santé mentale existe, c'est pour protéger la vie, et non pour enlever la vie. C'est très malheureux de voir aujourd'hui que dans certains endroits de notre société, il y a... Malheureusement, il y a parfois un certain mépris de la valeur et de la sainteté de la vie. Et je l'ai vu, à certaines occasions, j'ai été visiter des gens à l'hôpital, et malheureusement, vu. Et mon but ce matin, ce n'est pas faire un exposé sur la manière que néfaste parfois que la vie est méprisée dans nos milieux, mais mon but ce matin, c'est de nous aider à voir la grande valeur inhérente de la vie humaine, la nôtre et aussi celle des autres autour de nous, parce que je crois que c'est seulement de cette manière que nous allons réellement vouloir accomplir la course que Dieu a préparée pour nous, en fait, le plan, la volonté de Dieu dans notre vie, que nous pourrons l'accomplir avec joie aussi. Et en fait, ce verset ici, vous savez, c'est un verset thème que Dieu a mis dans mon cœur pour l'année 2025. Si je reviens à quelques reprises, vous allez peut-être m'entendre parler encore. Mais je crois que ma prière, c'est que nous puissions tous vraiment accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. La course que Dieu a préparée jusqu'au bout, même si on est avancé un petit peu dans notre course. Amen. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui... Ils m'ont dit qu'ils étaient avancés dans leur course. OK. Et il y a 3 raisons que je veux voir avec vous ce matin. Pourquoi la vie est si précieuse aux yeux de Dieu et pourquoi elle devrait l'être aussi pour nous. La première raison, c'est celle-ci. Parce que la vie, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous l'a donné. Et elle est précieuse. Il y a le passage dans Genèse 2 et le verset 7 qui dit ceci. Je vais vous le lire. Ça dit, « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. » Dieu, c'est le créateur de toutes choses. La Bible est très claire à ce sujet-là. C'est notre créateur aussi. Dieu, il est éternel. La Bible nous dit, il a toujours existé, il est sans commencement et sans fin. C'est un concept qui n'est pas toujours facile à saisir pour nous, mais en fait qui répond à une multitude de questions que le monde se pose depuis toujours concernant la vie, concernant les raisons de la vie, les buts de la vie, la direction, la destinée. Il y a beaucoup de... Mais Dieu, oui, Dieu est éternel. Vous savez, la Bible, ce n'est pas un livre scientifique, mais elle répond à toutes les questions que la science ne peut pas répondre. Elle répond d'une manière très claire et précise, et je dirais même très logique et très scientifique aux questions de la vie que la science ne peut pas répondre. Et la Bible ne contredit pas la science, mais la science confirme la Bible lorsqu'on est prêt de la lire avec un cœur honnête. Et c'est pourquoi, vous savez, parmi les plus grands scientifiques intègres et honnêtes de ce monde ici, vous savez, que notre monde a produit, il y a une multitude de croyants en Dieu, définitivement. Et ça fait du bon sens de croire qu'il y a un Dieu qui a créé l'univers. Mais Dieu, il est éternel, vous savez, mais nous ne sommes pas éternels. C'est là que je m'en viens. Nous avons un commencement. Un jour, Dieu a créé l'homme et la femme. De la poussière de la terre, il a créé un homme. Et ensuite, avec la côte de l'homme, il a créé la femme. Et Dieu leur a donné le souffle de vie. Ils sont devenus des êtres vivants, créés à l'image de Dieu. Nous sommes les seules créatures créées à l'image de Dieu. Et parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous pouvons avoir une relation avec Dieu. Une relation réciproque. Dieu peut avoir une relation avec nous, on peut avoir une relation avec lui. En fait, l'apôtre Paul, il nous dit même dans les Actes que nous sommes de la même race que Dieu. Dans Acte 17, il dit ceci. Et Dieu a donné, oui, à l'homme et la femme le souffle de vie. Il a même établi sur la terre pour qu'ils se multiplient et qu'ils dominent sur toute la création. Vous savez, dans Genèse 1, le verset 26 et 27, j'aimerais vous le lire, vous pouvez suivre avec moi, mais ça dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Wow! C'est quand je dis... Quel privilège et quel honneur Dieu accorde à l'homme et la femme, à l'humanité. Il nous a créés, puis il veut qu'on domine sur la terre avec lui, qu'on se multiplie. Il nous donne une place d'honneur. Vous savez, il existe une grande différence entre les animaux et l'homme et la femme, et l'humanité. Je sais que je ne vous apprends rien, mais je vais quand même le dire pareil. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas contre la protection des animaux. Au contraire, je crois que Dieu nous a donné une responsabilité envers sa création, envers les animaux et envers la terre entière. Et on devrait faire de notre mieux pour prendre soin de la création de Dieu, absolument. Mais il ne faut pas oublier l'ordre dans lequel Dieu a établi les choses. Il ne faut pas accorder une plus grande priorité à la création qu'à la vie humaine. Et je crois que parfois, dans notre monde aujourd'hui, on a l'impression que ça marche à l'envers. En fait, il y a bien des choses qui marchent à l'envers. Ce n'est pas Dieu qui marche à l'envers. C'est nous qui marchons à l'envers. Lorsqu'on voit des efforts extraordinaires pour sauver certains mammifères, tandis qu'il y a des bébés, il y a des embryons. Qui sont mis à la poubelle. OK. La vie que Dieu nous donne a un commencement. C'est ça que je vais arriver. Tout comme celle d'Adam et Ève a eu un commencement. Moi, je vais vous dire, J'ai été conçu dans le ventre de ma mère au mois de septembre 1959. Là, vous savez quel âge que j'ai. Je suis né au mois de mai en 1960, c'est ça. T'sais. Ça, c'est mon commencement. C'est mon commencement. C'est Dieu qui a permis que j'existe, qui m'a donné la vie, que je puisse faire partie de sa création. Puis, il a utilisé mes parents, certainement. Puis, je ressemble à mon père, puis ma mère aussi. Et c'est... En fait, vous connaissez probablement le psaume 139 qui dit ceci... Il dit, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. » Wow! C'est Dieu, en fait, qui nous a créés, qui nous a donné la vie. T'sais. Puis c'est merveilleux qui nous permet, qui nous utilise aussi pour donner. Et parce que notre vie et la vie des autres aussi a une grande valeur aux yeux de Dieu, parce qu'en fait, c'est Dieu qui a décidé dans son cœur, dans sa sagesse, même avant la fondation du monde, de nous donner la vie. C'est Dieu un jour, il a voulu qu'il y ait un Luc Poirier qui reste, qui soit né dans le nord du Québec, parce qu'il fait froid, puis qu'il l'a envoyé au Nouveau-Brunswick. Mais c'est Dieu qui a voulu que nous existions. Nous ne sommes pas un accident. Même s'il y a des personnes parfois qui nous ont dit que nous étions des accidents ou qui pensent que nous sommes des... Nous ne sommes pas des accidents. Peut-être qu'on est une surprise, mais on n'est pas un accident. Nous avons eu 4 enfants. Puis je peux vous dire que notre quatrième, Ruth... C'était une surprise. Mais quelle belle surprise! Quelle belle surprise que Dieu nous a donné. Ruth, c'était vraiment là. Elle est comme. Souvent, je lui dis, Ruth, j'ai dit, toi, tu es belle à l'extérieur et à l'intérieur. Puis il y a beaucoup de gens qui voient ça aussi. Elle travaille dans la GRC, puis c'était son rêve, puis je crois vraiment que Dieu, c'est là qu'il se servir d'elle. Puis en plus, elle nous a donné 2 beaux petits-fils. Puis ils sont beaux pour de ça. Mais voyez-vous, parce que notre vie est précieuse, parce que vraiment notre vie, elle a commencé dans le cœur de Dieu. Et c'est important qu'on puisse le réaliser. Et ça nous accorde une valeur, ça nous accorde une joie. Vous êtes avec moi? Pouvez-vous dire avec moi, ma vie est précieuse aux yeux de Dieu? Amen. Amen. La deuxième raison que je veux voir avec vous ce matin, je m'en viens bon avec ça, c'est celle-ci. C'est parce que la vie n'a pas de fin. La vie n'a pas de fin. Oui, on a tous un commencement, comme je viens de partager. Mais la façon que Dieu a conçu, a créé la vie humaine, vous savez, nous n'avons pas de fin. Nous n'avons pas de fin, vous savez. D'une manière, nous sommes immortels. Wow! Et vous savez, c'est une vérité qui fait réfléchir, ça. Ça dure long, tu sais. Lorsque nous recevons la vie, ou lorsque nous demandons à Dieu... Vous savez, de nous utiliser pour donner la vie à un enfant, comme que nous avons vu ce matin. Je veux dire, c'est une... En fait, vous savez, c'est une grande responsabilité de vouloir être parent ou de vouloir concevoir des enfants, parce que la vie que nous sommes en train, oui, de créer avec Dieu, c'est sûr, tu sais, c'est une vie qui n'aura pas de fin. La Bible parle expressément, clairement, de la vie éternelle et aussi d'un châtiment éternel. Vous êtes avec moi? C'est très clair. La Bible nous parle qu'un jour, c'est que certains vont être assis à la table du Seigneur avec Abraham, Isaac et Jacob et que d'autres vont être jetés dehors. Si vous prenez des notes, c'est dans Luc, le chapitre 13, versets 27 à 29. T'sais. Jésus a parlé de nombreuses fois aussi de la vie éternelle. plusieurs fois un passage, c'est sûr qu'on connaît très bien, c'est dans Jean 3, 15 et 16. C'est-à-dire, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il y a d'autres passages aussi qui nous disent, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Plusieurs fois, vous savez. Il existe une multitude, oui, de passages bibliques qui expriment clairement que nous avons un commencement dans la vie, mais qu'il n'y a pas de fin. Qu'il n'a pas de fin. Et ceci nous démontre, vous savez, parce qu'il n'y a pas de fin, ça nous démontre comment est-ce que la vie est précieuse, comment est-ce que la vie a une grande valeur. L'existence de chaque individu a vraiment une grande valeur parce qu'il n'y aura pas de fin. On ne peut pas dire à la personne à côté de nous ou qui que ce soit, dire, hey, toi, là, tu ne vivras pas longtemps. Et vous savez, c'est quelque chose, je pense, qu'on doit saisir dans notre cœur. L'importance. La personne qui est assise à côté de nous, la personne qui est assise à côté de vous ce matin, est-ce que vous réalisez qu'elle va vivre éternellement? Celle qui est assise à côté de vous, probablement que, ici, là, elle va être dans le royaume de Dieu un jour. Amen! On va se retrouver ensemble. Je vais encore, hein? Je ne sais pas si je vais prêcher encore dans ce temps-là, mais en tout cas, mais c'est la personne qui est assise à côté de nous aussi, soit dans l'avion ou à l'école, au collège, au restaurant, à une partie de hockey, au travail, elle va vivre elle aussi éternellement. Et à quel endroit est-ce qu'elle va être? Est-ce que nous le réalisons au plus profond de notre cœur? Je pense que si nous voulons vraiment accomplir la course que Dieu a préparée pour nous, c'est important qu'on puisse le réaliser. Saisir ceci. La vie humaine est précieuse, oui, parce qu'elle a été donnée par Dieu et parce qu'elle n'a pas de fin aussi. Notre vie est précieuse aux yeux de Dieu parce qu'elle n'aura pas de fin. Jésus le réalisait, vous savez, même lorsque Jésus était sur la croix, le brigand à côté de lui, tu sais, il réalisait encore comment sa vie était importante. Et je prie que le Seigneur nous aide à voir la valeur de notre vie et aussi de la vie des gens autour de nous de la même façon que Dieu la considère. Parce que ceci, ça va nous aider à accomplir la volonté de Dieu dans notre vie, notre course jusqu'au bout que Dieu a préparé pour nous en plaçant les mêmes priorités que Dieu donne à la vie humaine. Êtes-vous avec moi ce matin? Je prie que ça puisse saisir notre cœur. La troisième raison ce matin que je veux voir avec vous, pourquoi est-ce que la vie est si précieuse aux yeux de Dieu? C'est ceci. Parce que Dieu désire la réconciliation. Ça nous démontre comment est-ce que Dieu considère nos vies précieuses. Okay. Vous savez, Dieu, il n'avait pas vraiment besoin de nous créer. Hein? Dieu existe, il a toujours existé dans une forme trinitaire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, depuis toute l'éternité. Puis il existe dans une unité parfaite, sans problème, en fait, sans manquer de rien dans la gloire céleste. Dieu, il y avait presque tout. Je vais le dire comme ceci. Genre. Et on voit ça dans Jean 17 aussi, ça nous parle de cette unité-là. Mais Dieu qui est amour, qui est bon, qui est généreux, qui est totalement contraire au narcissisme ou l'égocentrisme, l'égoïsme, l'individualisme, complètement contraire, Dieu, il veut partager la richesse de son existence, de sa vie, de sa gloire avec d'autres personnes. Et comme la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, Et cette vérité, c'est une vérité et ça s'applique à Dieu lui-même aussi. Et Dieu y trouve aussi sa plus grande joie à donner. Amen. Et lorsque Dieu a créé le monde, vous savez, il l'a créé parfait et il désirait que l'homme et la femme et l'humanité puissent vivre dans une harmonie parfaite, dans une paix, une joie parfaite. C'était le désir de Dieu. Puis en fait, c'est encore son désir aujourd'hui. Jésus, lorsqu'il priait pour ses disciples, il a prié qu'ils puissent connaître une joie parfaite aussi, une satisfaction parfaite. C'est le désir de Dieu. Et Dieu désirait qu'ils puissent dominer, jouir de la création. Hein? Et Dieu a créé la lumière, il a créé le ciel et la terre, les oiseaux, les poissons, les animaux, tout ce qu'il avait besoin. Dieu a tout préparé puis il l'a donné à l'homme. C'est pas merveilleux? Tout ça, il a tout préparé d'avance. C'est, Dieu a tout préparé d'avance. Et même sans qu'il y ait de faim, de mort, de larmes, de tristesse, puis à ce moment-là, même les animaux vivaient en harmonie. Mais qu'est-ce que je veux qu'on puisse saisir ici? Nous voyons que par la provision de Dieu, par la préparation de Dieu dans la création, tout ce que Dieu a préparé, nous voyons encore ici comment est-ce que Dieu accorde une grande valeur à la vie humaine. Et comment il ne voulait pas que l'homme ne manque de rien. Et c'est encore pareil aujourd'hui. Dieu veut pourvoir aux besoins de sa création. Dieu n'a pas changé. Jésus a dit, dans Matthieu 6, il dit, « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. » Toutes ces choses, c'est les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. On peut voir, et j'espère que vous le voyez un petit peu aussi, là, dans cette, tu sais, que Dieu, il a tout préparé parce qu'il considère la vie humaine très importante à ses yeux. Il y avait une chose. Oups. Peut-être que vous vous demandez où est-ce qu'il s'en va avec ça, là. Désir de la réconciliation, là. Hein? Il y avait une chose, en fait, que Dieu demandait à Adam et Ève. Et c'était le respect. Le respect de Dieu, le respect de son Créateur, son Père Créateur. Et c'était parce que Dieu, il savait que c'était nécessaire à leur bien-être pour vivre avec un sentiment de sécurité, de protection sous les ailes de Dieu. Et la manière de vivre sous ce respect et d'accomplir cette exigence et de vivre dans cette sécurité-là, c'était en obéissant à un commandement que Dieu leur avait donné. Et ce commandement-là, en fait, on le retrouve dans Genèse, chapitre 2, versets 15 et 16, qui dit ceci, ça dit, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu ne pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » C'était tout. Il n'y avait pas une longue liste là, à faire ceci et à faire cela. C'était pas si, c'était pas si compliqué que ça. Là. En fait, je vois que Dieu n'était pas concerné pour les détails insignifiants ou Dieu il ne voulait pas, en anglais on dit micromanage, là, une gérance. Micromanage. Je pense que vous me comprenez. Ce n'était pas l'intention de Dieu, vous savez. Il leur demandait seulement une seule chose, c'était le respect en obéissant à un commandement, puis c'était suffisant. Parce que Dieu savait qu'aussi longtemps qu'il vivait dans ce respect-là, il se sentirait en fait aimé, en sécurité, protégé avec des bonnes, puis il ferait des bonnes décisions, des bons choix. Et on peut voir à travers cette limite-là que Dieu leur donnait, cet encadrement-là, nous voyons comment est-ce que leur vie était précieuse à ses yeux. Vous savez, les commandements que Dieu nous donne aujourd'hui, ça nous démontre son amour et son intérêt pour notre vie. Ça nous démontre en fait que notre vie est précieuse pour lui. C'est la façon que nous devrions le voir. Ce n'est pas pour nous priver de quoi que ce soit, c'est parce que Dieu est. Il care. Ça, c'est un petit peu acadien, là. Dieu care. Ah, j'ai dit que vous garantissez que le monde, ils savent ce que ça veut dire. La Bible nous dit, hein, dans Hébreux, ça dit, « Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin qu'on participe à sa sainteté. » Et c'est comme ça que nous devons recevoir. Un parent dont la vie de ses enfants est précieuse, il s'occupe de son enfant, il l'enseigne, il le guide, il le discipline, il lui donne des avertissements, un encadrement, parce qu'il sa vie est précieuse pour lui. Et c'est la même chose avec Dieu. Lorsque Dieu nous parle, vous savez, lorsque Dieu nous parle et qu'il y a une conviction, la conviction du Saint-Esprit qui vient sur nous, ce n'est pas une... Dieu, il ne cherche pas à nous condamner, mais il cherche à nous convaincre, par exemple. Amen. C'est comme ça que il nous demande encore aujourd'hui de le respecter parce que c'est le meilleur qu'il y a certainement pour nous. Et c'est la raison pourquoi la Bible nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est le respect de Dieu. Et je vous encourage, vous savez, lorsque vous lisez la parole de Dieu, que vous découvrez peut-être une exhortation qui vient vous chercher, de le recevoir non comme une condamnation, mais de le recevoir comme une preuve de l'amour de Dieu pour vous qui considère votre vie précieuse et que Dieu recherche votre bien. C'est important de le recevoir. Puis ça nous arrive toutes parce qu'on a toutes de besoins de temps en temps. Amen. Que ça peut nous conduire. La Bible nous dit que le Seigneur corrige celui qu'il aime et châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Et là, vous me posez la question encore une fois, bien, qu'est-ce que ça a à faire avec la réconciliation? Qu'est-ce que ça a à faire avec la réconciliation? J'y arrive. Dans Genèse, le chapitre 3, et le verset 15, ça nous dit ceci. Dieu dit, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et là, vous me dites, « qu'est-ce que tu veux dire? » Ici, vous savez, ça, en fait, c'est la première prophétie concernant la venue de Jésus pour la réconciliation de l'homme avec Dieu. C'est ça que c'est. La descendance de la femme ici, c'est la promesse qu'un jour, il va y avoir un homme né d'une femme qui va écraser la tête du serpent, du diable. Même si lui, il va lui écraser le talon. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Satan, oui, va essayer de l'emporter sur lui durant sa vie terrestre, mais il ne réussira pas. Et Jésus, par sa vie, par sa mort, par sa résurrection, il va écraser la tête du diable. Il va vaincre le diable et la mort pour nous donner la vie. C'est ça que c'est. Et en fait, ici, on voit Dieu commence à révéler son plan pour offrir le salut, la réconciliation au monde à travers son Fils, Jésus-Christ. Et le point que je veux que nous puissions saisir ce matin, c'est ceci. Nous voyons ici que même après la rébellion, même après le manque de respect, la désobéissance, le péché, la valeur de la vie humaine aux yeux de Dieu n'a pas changé. Dieu, il cherche la réconciliation, il offre le pardon, il offre un moyen de rétablir la relation avec lui, puis il est prêt d'en payer le prix, puis ce prix-là, c'est Jésus-Christ à la croix. Amen. C'est la vie humaine. Dieu attache un grand prix à la vie humaine, la vôtre et celle des autres aussi. Et il a payé le prix extrême pour nous avoir avec lui. Et c'est la raison, vous savez, c'est une raison pourquoi nous ne devrions pas mépriser notre vie qu'elle a du prix aux yeux de Dieu, et que cette vérité-là, puisse produire un sentiment de valeur, en fait, de valeur personnelle à l'intérieur de nous. Pour être joyeux, pour être bien, on a besoin de sentir qu'on vaut quelque chose. Je le dis comme ceci, là. Et lorsqu'on réalise la valeur que Dieu accorde à ma vie, wow, Seigneur, ça produit une joie à l'intérieur de nous. Et ceci devrait être la fondation de notre joie en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, plus que n'importe quelle bénédiction que nous pouvons recevoir, parce qu'on sait que la vie n'est pas toujours facile. Mais parce que nous sommes les enfants de Dieu, ceci, ça doit être le fondement, la fondation de ma joie, où je vais accomplir la volonté de Dieu, accomplir ma course avec joie, parce que c'est une grande valeur aux yeux de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Dans 1 Jean, hein, chapitre 3, ça dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Il dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Amen. Et cette espérance, vous savez, et cette valeur-là, cette fondamentale dans notre cœur, vous savez, ça crée un « nous », ça crée en nous, en fait, ça nous incite à la sainteté, à la pureté. Et je crois vraiment que c'est la plus grande motivation pour rechercher à vouloir être comme Jésus, à porter des fruits comme Jésus, à s'éloigner du mal et du péché. Amen. Dieu, il veut se révéler tellement dans notre cœur que ça va produire un feu que nous allons le désirer tellement fort que tout ce qui est contraire à sa volonté, nous allons le détester. Ça dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et vous savez, c'est ma prière pour le peuple de Dieu, c'est ma prière pour ma famille, continuellement, chaque jour. Seigneur, glorifie ton nom dans notre cœur. Père Céleste, glorifie, révèle-nous, Seigneur, la gloire de ton nom, la richesse de ta grâce, l'immensité, la largeur, hauteur, profondeur de ton amour. Révèle-le dans nos cœurs afin que ça crée en nous un désir tellement grand qu'il n'y a plus rien qui se compare à toi, Seigneur. Et l'apôtre Paul, il priait ceci. Et moi, je le prie aussi. Juste un point ici aussi qu'il ne faut pas oublier, juste au cas où, là, il ne faut pas oublier que Jésus n'est pas mort seulement pour nous, mais qu'il est mort aussi pour le monde entier. Ça dit dans 1 Jean 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et la raison que je dis ceci, c'est que parfois, on peut penser tellement à nous-mêmes qu'on commence à oublier les autres. Puis quand je dis, hey, moi, ma vie est précieuse, moi, là, moi, je suis précieux. Oui, ah oui, toi, t'es précieux. Mais l'autre aussi est précieux aux yeux de Dieu. Il faut faire attention parce que notre monde, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est me, myself and I, hein? La mort de Jésus a aussi couvert les péchés des gens autour de nous. Leur vie est aussi précieuse aux yeux de Dieu. Et le Seigneur voudrait qu'ils viennent à la repentance aussi, qu'ils reçoivent le don de la vie. Et la vie des gens devrait être précieuse aussi, les gens autour de nous devraient être précieuses. Et Jésus nous l'a très bien démontré dans la façon qu'il traitait les gens autour de lui. Les pécheurs, les gens de mauvaise vie, vous savez, il les traitait avec respect aussi, puis il voulait leur annoncer la bonne nouvelle. Puis Jésus, c'est notre modèle. Et ça devrait être notre modèle aussi. En toute chose. Oui, la vie est précieuse. Oui, la vie est précieuse, c'est aux yeux de Dieu. La vie, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu, il nous l'a donné. C'est aussi parce que la vie n'a pas de fin, Puis c'est aussi parce que Dieu désire la réconciliation. Et ça, ça nous démontre comment que notre vie est précieuse et comment est-ce que la vie des gens autour de nous est précieuse aussi. Et que Dieu puisse nous le révéler et que ça puisse produire en nous, oui, une joie d'être son enfant et en même temps une passion pour partager la bonne nouvelle avec les gens autour de nous. Et je crois vraiment, vous savez, que la plus grande preuve de l'amour de Dieu, que la vie est précieuse, ça a bien fonctionné. Fallait bien que ça fonctionne mal une fois, hein? En fait, il y avait une photo d'un petit bébé, c'est ça, et d'une croix. La croix, c'est la preuve ultime que notre vie est précieuse aux yeux du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut se lever debout ce matin? Je prie que ce message-là, si c'est vous qui êtes là, que ça puisse vous encourager. Parce que votre vie est précieuse aux yeux de Dieu. Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu est avec vous. Il veut vous aider. Il veut vous conduire dans un meilleur sentier, dans un bon chemin. Et Seigneur, je prie ce matin, Seigneur. Toi, tu vois les cœurs, Seigneur. Toi, tu vois toutes choses. Et je prie qu'il y a des gens comme ça ici ce matin, Seigneur, qui se sentent peut-être découragés ou abandonnés. La vie n'est pas facile. Je prie, Seigneur, que par ton esprit, tu leur révèles que leur vie est précieuse, Seigneur, et que tu veux, Seigneur, tu veux les rencontrer, Seigneur, tu veux les aider, tu veux les conduire, tu es là pour eux, Seigneur, tu ne nous abandonnes pas. Je te demande, Seigneur, afin qu'ils puissent avoir le courage, Seigneur, de lever les yeux vers toi, Seigneur, de mettre leur confiance en toi, Seigneur, et de continuer à marcher avec toi, à se relever, Seigneur. C'est ma prière pour ces gens-là, Seigneur, ce matin, dans ce lieu. Tu connais les cœurs, Seigneur.